France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel. À la technique ce matin, c'est Nicolas Bonnet. Des chefs d'État climato-sceptiques, des COP décevantes, le pacte vert européen revu à la baisse, des militants écologistes attaqués. Comment la transition écologique continue malgré tout? Dans quel nouveau rapport de force? Après les élus états-uniens qui entrent en résistance dont nous parlions hier, en Chine, aujourd'hui, la longue marche des renouvelables.
En examinant les progrès que nous avons réalisés au cours des 10 et 5 dernières années, nous pouvons voir que le développement de notre industrie des énergies renouvelables au Xinjiang est un portrait du développement global de notre pays au cours des 5 dernières années.
La ferme éolienne de Daishan a une capacité installée totale de 234 MW. Comparée à une centrale électrique au charbon de la même taille, nous réduisons les émissions de carbone de 170 000 tonnes et celles de gaz dangereux et de poussière de 470 000 tonnes.
Est-ce que d'autres pays dans le monde peuvent concurrencer la Chine ?
Non. On a beaucoup de travailleurs talentueux et nos ressources en silicium sont abondantes. L'industrie photovoltaïque chinoise est la meilleure au monde.
Des panneaux solaires qui s'étendent à perte de vue en plein désert ou sur les lacs, parfois 2 millions de panneaux pour un seul parc. Des éoliennes surpuissantes comme la dernière installée en mer au large de la province de Hainan, 310 mètres de diamètre, une surface de balayage équivalente, nous dit-on, à 12 terrains de foot. Cette unité de mesure, certes un peu paresseuse, mais universelle. D'un côté, la Chine développe massivement les énergies renouvelables. De l'autre, ses émissions de gaz à effet de serre diminuent, alors même que la demande d'électricité augmente. Certes, en Chine, où plusieurs données nous échappent, le risque est grand de tomber dans le sophisme, mais il est vrai que cela ressemble bel et bien à un début de transition énergétique et même peut-être un pic d'émissions avant l'heure, puisqu'il avait été promis par Xi Jinping pour 2030. Si la Chine reste une grande productrice et consommatrice de charbon, que pèsent désormais les renouvelables? Comment se déploie-t-elle sur le territoire en même temps que l'électrification des usages? Bonjour Stéphanie Mongeon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Paris-Dauphine PSL, comme on dit aujourd'hui, et vice-présidente en charge de la responsabilité environnementale et sociale. Bonjour Thibaut Voïta.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, conseiller à l'Institut Jacques Delors et co-directeur de master à l'EM Lyon. Alors, comme on sait depuis le temps qu'on le dit, et notamment dans cette émission, qu'on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, il faut commencer par comprendre, Stéphanie Mongeon, ce que veulent dire ce que cet institut finlandais spécialisé dans la qualité de l'air avance au sujet de la Chine. Une baisse des émissions d'1,6% au premier trimestre 2025 par rapport à la même période l'année dernière et d'1% sur un an. Comment vous lisez ce nombre, Stéphanie Mongeon? Quelles questions ça vous pose d'emblée, cette étude-là?
Alors, je le lis avec prudence. Ça, c'est la première réaction. C'est un signe très positif, hein. Il faut quand même le souligner, hein. Mais il faut être prudent parce que l'augmentation de la consommation énergétique continue à être importante, à augmenter de façon importante, et quand même, pose question. Donc, certes, le déploiement des renouvelables est très important, mais les capacités thermiques au charbon continuent aussi à augmenter. Et donc, il y a cette espèce de partition à jouer entre un mix électrique avec différents types d'équipements, donc charbon, renouvelable et puis nucléaire. Et donc là, il va falloir faire de la couture vraiment précisément de façon à pouvoir baisser les émissions, mais toujours avec une demande qui augmente, et ça, ça rend l'objectif assez compliqué.
Et l'objectif est aussi de savoir exactement ce qui augmente dans cette consommation d'énergie, quels secteurs sont aujourd'hui les plus énergétiques, ou les plus consommateurs d'énergie, énergivores, on va en parler. Cette étude a été faite par un centre de recherche finlandais, donc le CREA, le centre de recherche sur l'énergie et l'air pur, qui croise les statistiques officielles chinoises avec d'autres données. Alors, je n'ai pas réussi à savoir, Thibaut Voïta, quelles autres données en question ont été croisées avec les statistiques officielles chinoises pour arriver à ces conclusions. Est-ce que d'emblée, première question très simple, est-ce qu'on peut se dire cette baisse des émissions, c'est dû tout simplement à une baisse de croissance ou à la crise immobilière qui a nécessairement ralenti la production de ciment, elle-même très émettrice de CO2? Est-ce que tout de suite, c'est la réponse ou le premier élément qui vous vient à l'esprit quand vous lisez ces chiffres?
Pas forcément. Je pense qu'il faut souligner que c'est une excellente nouvelle, si elle se confirme. Il faut aussi souligner, comme on le disait à l'instant, qu'il faut être prudent, parce que le pic des émissions, sauf erreur de ma part, l'Agence internationale de l'énergie, le pic des émissions en Chine, l'Agence internationale de l'énergie l'avait annoncé il y a quelques années, et le CREIA l'a annoncé plusieurs années. À chaque fois, moi, je relayais sur LinkedIn, etc. Et puis, en réalité, les émissions continuent à augmenter, donc il faut vraiment voir sur le long terme.
Donc là, vous avez arrêté de relayer sur vos réseaux sociaux. On s'est dit, on va attendre de voir si ça se confirme. Mais quand vous dites si ça se confirme, si ça se confirme dans le temps, ou si ça se confirme tout court, qu'on ne sait pas trop comment ces études sont fabriquées.
Dans le temps, a priori. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème sur les statistiques et sur les données, sur la fiabilité des données en Chine en général. Cependant, le CREIA, même s'ils ont annoncé ce pic plusieurs fois, c'est vraiment un excellent centre de recherche. Je crois que c'est vraiment le meilleur sur les questions énergie Chine, et on peut leur faire confiance. Plus spécifiquement, je pense que ce qu'il faut voir derrière ces données, c'est la spectaculaire croissance des énergies renouvelables, de l'installation des énergies renouvelables en Chine, et le fait que on a une espèce de lutte, si je puis m'exprimer de manière imagée, entre d'une part la part du charbon dans le mix énergétique, qui a 20 ans était à 80%, dans le mix électrique, pardon, qui a 20 ans était à environ 80%, et qui là est en train de descendre de manière stable, et on espère prochainement passera sous les 50%.
Donc voir si la consommation et production de charbon diminue autant que les énergies renouvelables augmentent, ce qui serait un petit peu plus optimiste que la simple juxtaposition pour l'instant des énergies qui se surajoutent les unes aux autres, et finalement pour répondre à une demande croissante de consommation, on ne fait que produire toujours plus. Là, on va voir s'il y a vraiment un déclin de charbon. Aujourd'hui, Stéphanie Mongeon, l'énergie chinoise est à 60%, je crois, dû au charbon, voire il arrive à la Chine de relancer la production en rouvrant les centrales ou en construisant de nouvelles. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir un instantané comme ça de la production de charbon en Chine?
Peut-être, au préalable, avant de répondre à cette question, il faut quand même rappeler que... alors déjà, on parle d'électricité. Quand on parle d'énergie, il faut rajouter des besoins en chaleur. Et sur ça, il y a une vraie problématique, c'est comment on répond aux besoins de chaleur qui sont extrêmement importants, notamment dans l'industrie lourde. Il y a aussi des besoins de mobilité. La mobilité, on y répondait jusqu'à présent très largement et encore aujourd'hui avec des combustibles fossiles, des carburants. Là, on essaye effectivement de faire passer une partie de la mobilité terrestre vers l'électricité. Une centrale thermique, ça produit quand on veut. Il y a une capacité maximale, mais si on l'alimente, ça produit. Donc ça permet d'avoir une production d'électricité qu'on connaît en termes de quantité de façon continue. Donc pour certains usages, c'est tout à fait indispensable. Les renouvelables, et celles dont on parle surtout, il s'agit de l'éolien et du photovoltaïque, on sait que ce sont des sources d'énergie, des équipements qui sont pas pilotables et intermittents. S'il n'y a pas de soleil, ça ne produit pas. Donc,
sauf à développer une production intermittente, aussi intermittente que les énergies renouvelables, mais c'est un autre débat.
Une consommation, effectivement. Mais un industriel va avoir besoin d'électricité de telle heure du matin à telle heure du soir, voire s'il fait les 3-8, et de façon continue et dans des quantités vraiment très importantes. Donc, c'est aussi ça. C'est pour ça que je parlais de couture. Donc, ça répond. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on regarde le facteur d'utilisation des capacités thermiques charbon, c'est assez faible, c'est-à-dire qu'on utilise à peu près un peu moins de la moitié du temps ces capacités, alors qu'on pourrait quasiment les utiliser, pas 100%, parce qu'il y a toujours de l'entretien, mais beaucoup plus. Donc là, c'est un signe où la Chine tente de baisser en fait son utilisation du charbon, et pourtant, elle continue à augmenter, donc construire de nouvelles centrales au charbon.
Combien ? Est-ce qu'on sait là-dessus il y a une forme, vous parliez même, Thibaut Voïta, de culture du charbon. Pour l'instant, la Chine n'a pas renoncé à cette culture du charbon.
Je pense qu'il y a deux cultures, encore une fois, qui existent en parallèle. Et je voudrais préciser, je parlais tout à l'heure de la part du charbon dans le mix électrique.
Donc, si la part diminue... C'est moi qui ai tendance à faire un petit contresens. En effet, c'est voilà, le mix électrique et non pas énergétique.
Non. Et aussi, si la part du charbon diminue dans le mix électrique, ça ne veut pas forcément dire que la consommation de charbon diminue. Ça dépend de l'augmentation ou pas de la consommation en électricité. Et alors, oui, il y a une vraie culture du charbon. En fait, le charbon, dans des régions situées au nord-ouest de Pékin, enfin, c'est dans ces régions qu'on appelle la Chine du charbon, ça a été, pour beaucoup de self-made man, un miracle dans les années 80, puis surtout 90 et 2000. Donc, il y a eu des fortunes colossales qui sont constituées très rapidement par des entrepreneurs qui rachetaient des mines de charbon à des mines de charbon qui appartenaient auparavant à des gouvernements locaux ou autres, avec souvent des transactions pas très transparentes.
Ils sont d'ailleurs en prison pour la plupart.
Voilà, la plupart d'entre eux ont terminé en prison, mais ils se sont construits des fortunes absolument colossales. Ils ont participé, ils étaient particulièrement et sont encore particulièrement impopulaires. On les appelait les Mei Laopan, puis les patrons du charbon, puisque ils donnaient des conditions de travail absolument abominables à leurs employés dans les mines qui étaient des mouroirs absolus. Et puis ils ont énormément contribué à la spéculation immobilière à Pékin, ce qui fait que les prix de l'immobilier ont augmenté parce qu'ils achetaient et ils avaient un style de vie extrêmement bling-bling, ce qui faisait qu'on les moquait souvent sur les réseaux sociaux pour leurs limousines longues de plusieurs mètres de...
Donc ils sont toujours ces hommes-là qui ont fait leur fortune dans les années 80, 90 et 2000 dans l'industrie du charbon. Qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Surtout, que devient l'industrie du charbon à l'heure où la Chine mise sur le renouvelable?
Alors aujourd'hui, donc on a cette culture du charbon, mais on a aussi une culture du renouvelable. Et ça, c'est très important, parce qu'au niveau économique, il faut savoir que 10% de la croissance de l'économie chinoise repose sur ce qu'on appelle les énergies propres, qui est au-delà des énergies renouvelables. Mais un chiffre qui m'a particulièrement impressionné et que je voudrais partager avec vous, c'est que les investissements en énergie renouvelable en 2023 représentent l'économie de l'Arabie Saoudite, les investissements en Chine. Donc c'est absolument colossal. On a tout un écosystème qui s'est développé, toute une industrie. La Chine, sur certains segments de la production des trois, ce qu'on appelle les trois nouvelles industries, donc les batteries, les panneaux solaires photovoltaïques et les véhicules électriques. Sur certains segments de ces secteurs, ils sont responsables de plus de 90% de la production mondiale. Donc il y a un quasi-monopole. Sans parler des métaux critiques et aussi de l'hydrogène sur lequel ils sont en train d'avancer rapidement.
Voilà, autant de secteurs qu'on va déployer dans cette discussion. Stéphanie Mongeon, les énergies renouvelables en général, sans entrer tout de suite dans le détail, mais qu'est-ce qu'on sait de leur déploiement dans le pays? Est-ce qu'on a une idée du rythme de ce déploiement, de la cartographie, de quelle énergie renouvelable est déployée où? C'est difficile d'avoir des images en fait de ce qui est en train de se passer en Chine, qui serait manifestement spectaculaire depuis quelques années.
Oui, c'est tout à fait spectaculaire. Vraiment, les chiffres sont sont surprenants. Personne n'anticipait une vitesse de développement aussi importante. Ça touche, je dirais, l'ensemble du pays. On peut trouver des cartes maintenant sur Internet. Hein. Vous cherchez capacité renouvelable, vous allez trouver des illustrations et c'est vraiment très intéressant de voir. Alors, les endroits où ça se développe. Alors, quand on met des fermes, on a besoin d'espace. Alors, c'est sûr que quand on est sur un territoire relativement dense, avec des grandes villes qui s'étendent sur des territoires extrêmement vastes, ça va être compliqué hein, de déployer des fermes éoliennes, photovoltaïques, enfin des parcs éoliens. Mais vraiment, en Chine, à certains endroits, il faut aller aussi, pareil, aller voir des photos, c'est vraiment spectaculaire. Et quand vous parliez de données tout à l'heure, donc vous disiez il y avait des données produites par les autorités chinoises, mais aussi des données qui sont aujourd'hui récoltées par satellite, par image satellite, et on peut localiser en fait l'ensemble de ces installations, puisqu'elles sont tout à fait visibles et reconnaissables, et il y a sur Internet aussi une mise à disposition de données, et c'est vraiment très intéressant de regarder ça. Donc, c'est déployé sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il va falloir transporter cette électricité. Quand elle est produite, il va falloir la transporter et la rapprocher des lieux de consommation.
Donc, ça, et là, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. Ça s'appelle un réseau de transport. Donc, c'est ce qu'on fait. Hein. Dès que vous produisez de l'électricité, il faut la transporter. On sait bien, tout le monde connaît. Mais c'est vrai que le renouvelable, en fait, pose des nouveaux défis en matière de réseau électrique, avec une nécessité à un moment donné, une nécessité d'évacuer rapidement une grande quantité qui peut soudainement stopper, enfin en tout cas diminuer assez fortement. On peut avoir un vent qui est assez important, soudainement le vent tombe et là la production s'écroule. Donc il va falloir trouver des relais ailleurs et c'est pour ça que les centrales thermiques continue à avoir un rôle tout à fait important, justement, pour un peu ce qu'on appelle baquer un peu la production intermittente quand elle commence à diminuer. Elle peut le faire de façon très importante.
Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une centrale, on en a deux pour le parcours.
Actuellement, c'est un petit peu ce qui se passe, mais pas qu'en Chine. Hein. C'est effectivement ce qui se passe, d'où un taux d'utilisation du charbon, enfin des centrales thermiques charbon, très faible.
Est-ce qu'on sait, Thibaut Voïta, si les groupes industriels chinois ont toujours des contrats de long terme avec les centrales à charbon ou si ces contrats sont en train de prendre fin petit à petit ?
C'est une bonne question. J'avoue que je ne saurais pas y répondre, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, il y a des projets. Enfin, je sais qu'il y a des projets de construction de centrales qui sont des centrales qui n'ont pas forcément vocation à être utilisées, mais à vocation à exister pour protéger la Chine en matière de
sécurité énergétique.
Voilà. Donc pour des problématiques de sécurité énergétique.
Donc il faut savoir sur capacité en fait.
On est si elles sont pas utilisées. D'accord. Mais enfin, il y a des problèmes effectivement ponctuels de surcapacité pour la raison évoquée à l'instant, c'est-à-dire que quand vous regardez la Chine, je sais pas quelle forme ça peut évoquer, mais en fait vous avez le Nord-Ouest qui représente 2/3 du territoire, qui sont des régions très peu habitées parce que climatiquement très très rudes. Et vous avez l'Est, les côtes, qui rassemblent toute la population et la vie économique. Et en fait, le Nord-Ouest rassemble non seulement les réserves en charbon, ce qui fait que les grandes entreprises chinoises de charbon étaient aussi des entreprises ferroviaires, parce qu'elles devaient transporter le charbon par train vers l'Est. Et c'est aussi ces régions qui sont extrêmement ensoleillées, dans lesquelles il y a énormément de capacités en matière de vent. Donc c'est elles qui produisent. Et effectivement, vous avez une absence de corrélation entre la production et la consommation.
L'autorité chinoise de l'énergie, car elle existe, a annoncé en avril que sa capacité en énergie éolienne et solaire dépassait pour la première fois celle issue des installations thermiques. On estime aujourd'hui que les énergies renouvelables représentent 56% du total des capacités installées en Chine, soit 10% de plus qu'en Europe. Pour l'instant, on est souvent obligé d'en parler au conditionnel, même si tout ça semble se confirmer de plus en plus.
Nous, on produit beaucoup moins que vous.
C'est pas que vous produisez moins que nous, c'est juste que vous êtes insignifiant. C'est parce que nous avons reçu un très grand soutien des politiques gouvernementales.
le responsable de production de Haitai Solar sur la compétitivité chinoise dans le domaine photovoltaïque. Il répond là à une journaliste de TF1, je crois, en novembre 2023, en lui disant « Vous ne vous représentez rien, vous êtes insignifiant par rapport à nous ». Oui, Stéphanie Mongeon.
Oui, là, on parle de la production des équipements. On n'est pas sur la production électrique. Mmh. C'est vrai, dans ce secteur, il faut distinguer, mais comme le charbon, on produit du charbon et après on l'utilise soit dans les centrales thermiques pour produire l'électricité, soit pour produire de la chaleur. Et ça, sur la chaleur, ça diminue pas beaucoup parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Mais pour revenir sur sur l'extrait que vous avez passé, on est sur qui produit les panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est vrai que la Chine domine le monde. Vous mentionnez quelques chiffres, c'est tout à fait impressionnant. Mmh. Et l'Europe, de toute façon, a vu son industrie photovoltaïque au début des années 2010, qui était en train de naître, être complètement balayée, mais balayée en quelques années. Je pense que moi, je reste traumatisée de ce moment où on a vu en quelques années l'industrie qui était en train de se développer pour produire du panneau être balayée par la concurrence chinoise. Ça s'est passé en 2 ans, 3 ans. Enfin,
ça s'est passé vraiment très vite.
Les Allemands sont également traumatisés.
Ah bah oui, oui.
La pilule a été difficile à avaler.
Parce que les prix sont sans commune mesure, vraiment.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que la production... alors, il y a beaucoup de facteurs qui ont été à l'œuvre, mais effectivement, comme le disait la personne qui était interviewée, il y a eu des soutiens absolument monstrueux à l'industrie, non seulement du solaire, mais aussi des véhicules électriques, des batteries, etc. Parce que il y avait cette idée, enfin, la Chine, ils sont très très pragmatiques, hein. L'objectif, c'est toujours la croissance économique. Le développement des énergies propres, à la limite, ça les intéresserait pas s'il y avait pas cette idée de croissance derrière. Donc l'idée, c'était de prendre des segments de marché qui ne sont pas encore occupés par les concurrents occidentaux. Donc véhicules électriques, solaires, batteries, etc. Enfin, je les ai déjà cités. Donc il y a eu énormément de soutien. Alors, plein de ces soutiens ont été de l'argent gaspillé parce qu'il y avait, vous aviez plein de projets. En Chine, quand vous avez une annonce du gouvernement central d'un plan national, d'une priorité, vous avez immédiatement des centaines, des milliers d'entrepreneurs qui créent leurs activités dans ce secteur parce qu'ils voient des opportunités. Là-dessus, vous en avez, je sais pas trop combien de pourcentages qui sont des projets qui ne devraient pas exister, qui vont échouer lamentablement. Et alors, en outre, en plus de ces soutiens, de ces crédits, du bas coût de l'énergie et de terres aussi allouées à des prix fracassants, les Chinois ont réussi à vraiment diminuer leur coût de production de manière drastique. Et ce qui fait qu'un panneau solaire chinois, je crois que ça représentait un tiers du coût d'un panneau solaire produit en Europe début 2023. Et le coût a encore diminué d'un tiers pendant l'année 2023.
C'est le cas aussi pour les éoliennes, Stéphanie Mongeon. Que ce soit les éoliennes ou des parties d'éoliennes, les nacelles, les pales, les flotteurs pour l'éolien en mer, la Chine est désormais très 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 compétitive par rapport à ce qui se produit ailleurs.
Alors... Oui, alors l'histoire de l'éolien est un petit peu différente de l'histoire de celle du photovoltaïque ou des batteries parce que la Chine a beaucoup développé l'éolien terrestre et tout de suite sur son territoire. Au début, les panneaux étaient principalement exportés. On n'a qu'à regarder les chiffres. Donc au début des années 2010, pour revenir, c'était essentiellement exporté. Et la Chine a commencé à installer des panneaux photovoltaïques sur son territoire après quelques années. Alors que les capacités éoliennes terrestres étaient déjà déployées de façon assez importante. Une éolienne, en fait, ça se transporte très mal. On a beaucoup de difficultés. Donc il y a une nécessité d'avoir un lieu de production qui n'est pas trop loin du lieu d'installation. Donc l'industrie éolienne a été relativement protégée de la concurrence chinoise. Cela pourrait changer pour le offshore, c'est-à-dire les éoliennes qu'on va installer en mer. Parce que on peut les transporter par bateau de façon, alors plus simple, je ne sais pas, vous imaginez une espèce d'énorme navire avec une éolienne géante qui va être sur ce bateau.
Donc surtout si maintenant ils en produisent avec des diamètres de 360 mètres.
Ah oui, mais peut-être que les plus gros, je ne sais pas si... Alors là, il faudra aller voir en détail dans l'industrie de transport maritime. Mais aujourd'hui, on a une concurrence qui va s'exercer sur les éoliennes marines venant de Chine. Et ça, on ne travaille pas beaucoup dessus, il me semble, en Europe, en tout cas pas suffisamment.
En tout cas, mieux vaut que ces technologies fonctionnent et mieux vaut aussi pour la Chine fournir et présenter des chiffres très bons en matière de baisse des émissions de CO2, puisque la Chine se place comme un partenaire stable, comme on le dit beaucoup depuis le début de cette émission, dans la question de la lutte contre le changement climatique.
Nous adhérons fermement au multilatéralisme et promouvons la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Dans la prochaine étape, nous favoriserons la construction d'un système de développement économique vert et faible en émissions, en prenant des mesures efficaces pour contrôler la consommation de combustibles fossiles. Nous allons également promouvoir des modes de vie écologiques et à faible émission de gaz à effet de serre parmi nos populations.
Quand la Chine s'affiche aujourd'hui comme ce vice-ministre de l'écologie et de l'environnement, quand il parlait de l'accord de Paris il y a quelque temps, elle s'affiche aujourd'hui comme un partenaire fiable sur les questions environnementales. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle a des produits et des technologies à vendre, Thibaut Voïta ?
Certainement. Certainement. Encore une fois... La Chine ne s'engage pas dans la lutte contre le changement climatique par pure philanthropie, ouais, gratuitement, exactement. Elle le fait parce qu'il y a des opportunités économiques. Alors ce qui est très bien, hein, je veux dire, si ça nous permet d'accélérer la décarbonation de nos économies, c'est très bien. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de victimes, notamment en Europe. On en parlait tout à l'heure, les producteurs allemands, mais aussi producteurs des entreprises françaises récemment, je sais plus si c'était en 2024 ou en 2023, il y a Sistovi par exemple qui a dû fermer, un producteur français. D'autres producteurs solaires ont connu le même sort en Europe. Donc oui, la Chine très engagée sur ce secteur, mais également très très agressive. Très agressive alors vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de beaucoup d'autres pays également, et c'est quelque chose qui est très important qu'il faut garder à l'esprit, parce que le marché chinois est un marché extrêmement concurrentiel. Donc souvent la meilleure manière de battre son concurrent, c'est de réduire ses coûts, de proposer un produit qui sera moins cher que le concurrent. Et les producteurs, enfin je pense principalement au photovoltaïque, mais c'est vrai aussi pour l'automobile et pour bien d'autres secteurs, les Chinois ont fait preuve d'une innovation extraordinaire pour faire baisser les coûts. Ils sont vraiment les meilleurs là-dessus, mais tout ça a créé des surcapacités très très fortes, et donc les Chinois inondent nos marchés avec leurs surcapacités.
En étant donc très agressif vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, mais aussi vis-à-vis de sa propre population, on parlera en focus avec Virginie Arontès de la façon dont toutes les mobilisations pour le climat ou l'environnement qui pouvaient subsister encore dans les années 2010 n'existent pour ainsi dire plus aujourd'hui. Et puis par ailleurs, le développement des renouvelables, c'est aussi l'hydroélectrique, donc c'est aussi un réseau de barrage qui pose d'autres problèmes avec une frénésie particulière au Tibet, avec de très nombreux projets de barrage sur ce seul territoire dont on sait combien Pékin a tout fait pour le contrôler. L'aménagement du territoire, c'est sur le long terme tout aussi redoutable que la coercition. Stéphanie Monjon, la question de la concurrence commerciale, de la rivalité commerciale de la Chine avec les États-Unis, est-ce que ça a une importance aussi particulière pour expliquer cet empressement de la Chine à commencer cette transition?
Oui, ça participe, mais je crois que le premier déterminant, c'est de trouver de l'activité. C'est de continuer à alimenter la croissance et à trouver de quoi occuper sa population, trouver des emplois pour sa population. Donc la Chine joue sur tout ça. Donc elle s'est positionnée de façon très intelligente sur, on l'a déjà dit, hein, sur ces secteurs de technologie bas carbone. il y a quand même, enfin, je voulais réagir à l'extrait que vous avez passé juste avant sur le discours, attention au discours, hein, quel qu'il soit, en Chine ou ailleurs. Hein. Donc, il y a ce discours, il y a quand même des signes qui sont plutôt inquiétants, très inquiétants en Chine. Le premier, c'est une croissance, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de la demande énergétique qui continue quand même à être très importante, alors même que là, il y a eu des infrastructures qui se sont développées de façon considérable. Allez voir les photos des villes chinoises, quoi. Donc la modernité existe maintenant sur une grande, grande partie du territoire, donc même s'il y a des territoires qui peuvent être assez contrastés. Hein, Cette croissance est faite de façon très vorace en ressources, en béton, en acier, mais également en équipement d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que là, on commence à voir peut-être frémir l'augmentation des émissions, mais aussi à quel prix ? C'est-à-dire qu'on est sur des capacités renouvelables, les chiffres sont tout à fait, vraiment très impressionnants, mais malgré cela, malgré cette réalisation en quelques années d'avoir mis au sol tant d'équipements, eh bien, on arrive encore difficilement à faire baisser les émissions. Et chaque équipement, c'est des métaux, du verre,
des terres rares.
Les terres rares, c'est seulement dans les éoliennes, mais des métaux stratégiques. Et malgré cela, donc, il faut voir toute l'économie, la consommation de ressources, hein, qui est un peu le socle, le fondement de cette sorte de transition énergétique, et c'est aussi vrai chez nous. Et ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que, vous l'aviez mentionné au début, à un moment, il faut aussi des capacités de stockage. Comment on fait ? Comment on crée en fait un écosystème ? Et l'écosystème, c'est du stockage, c'est un réseau de transport d'électricité aussi qui est très gourmand aussi, en cuivre par exemple. Alors, il n'y a pas que dans le réseau, mais les questions se posent. Et aujourd'hui, les scénarios qu'on nous présente sont plutôt inquiétants en termes de consommation des ressources.
Et d'autant, oui, Thibaut Voïta.
Non, j'ajouterai un point. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, mais il y a aussi un point qui est inquiétant. Dans le sens où on est parti dans les années 80-90 avec un ensemble industriel qui était particulièrement inefficace. C'est l'héritage de la période maoïste où il fallait développer des petites structures qui consommaient énormément. Et puis la Chine a décidé de prendre en main sa consommation et a lancé des plans extrêmement ambitieux en matière d'efficacité énergétique. Et elle est devenue, elle s'est hissée comme un des pays les plus performants, une baisse de l'intensité énergétique les plus rapides. Mais les objectifs actuels en matière d'intensité énergétique, la Chine a énormément de mal à les remplir. Il y en a un qui a été fixé en 2020 qui consiste à baisser l'intensité énergétique de 13,5%. L'intensité énergétique, c'est la consommation en énergie par unité de PIB.
C'est la quantité d'énergie nécessaire pour produire une chose donnée.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
Donc ça, c'est un enjeu, il faut absolument baisser l'intensité énergétique.
Dans l'industrie, oui. Puisque l'industrie, les renouvelables ne fonctionnent pas pour les industries les plus lourdes, c'est absolument essentiel l'efficacité énergétique. Mais également dans le bâtiment, on se focalise très souvent sur quand on parle d'énergie propre, d'énergie décarbonée, sur tout ce qui est l'offre, les renouvelables, mais la demande a une part au moins aussi importante à jouer. Et donc la Chine, alors elle va a priori remplir parvenir à cet objectif, mais elle va y parvenir parce qu'elle a fait un twist il y a à peu près un an. Ils ont vu que leur progression pour atteindre ces 13,5 n'était pas suffisante. Et donc, ils ont décidé d'exclure certaines industries pour parvenir à ce résultat, en disant que de toute façon, maintenant, ils se focalisaient sur l'offre et pas sur la demande. Et de manière plus générale, il y a aussi une obsession chinoise du chiffre, de la réussite, de la performance, et un technosolutionnisme qui va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire que on produit plus, on grandit, mais jusqu'où en fait, et à partir de quel moment est-ce qu'on réduit la consommation?
Ça existe, Stéphanie Mongeon, en Chine, un discours sur la sobriété, consommer moins d'énergie plutôt que de trouver par tous les moyens comment en produire toujours plus, mais avec l'étiquette d'énergie propre.
Alors, en règle générale, y compris dans nos sociétés, le terme sobriété n'est quand même pas très présent. Si ce n'est quand on met un plan d'urgence, alors que la sobriété est quelque chose qui devrait s'articuler. Enfin, c'est vraiment un des leviers importants dans toute transition. Ce qui va permettre notamment la sobriété en termes de consommation aussi de ressources, de matières, de métaux. Et on voit tous les enjeux que ça pose. Moi, le terme énergie propre, je n'utilise pas. Je suis toujours gênée parce que c'est... Vous avez repris décarboné, en fait. Ouais. C'est décarboné, mais décarboné. Très consommateur en ressources. Si vous prenez une centrale thermique ou une centrale nucléaire et du PV, et vous les évaluez par le prix de la consommation matière, c'est la centrale nucléaire qui gagne. Enfin, donc c'est ça, il faut vraiment embarquer dans la transition, il faut embarquer effectivement le climat, il faut embarquer la protection des services écosystémiques, des espaces, de la biodiversité, et aussi une certaine sobriété dans les ressources, parce que elles sont en quantité finie et posent des questions. Là, on voit très bien les travaux qui émergent sur la géopolitique des métaux. Donc, quand on est dans un monde où les frictions deviennent, ne sont plus seulement des friction, mais donc ces questions se posent et reviennent. Donc on doit absolument embarquer dans les choix politiques qu'on fait l'ensemble de ces questions, même si c'est très compliqué. Et c'est vrai que pour la Chine, c'est quand même assez étonnant. Donc moi, je ne l'ai jamais trop vu, le terme sobriété. Mais c'est vrai que, y compris en France, on a des visions, enfin pour certains, des visions duales entre innovation et sobriété. Pour moi, c'est complémentaire, c'est à articuler. On a besoin d'innovation. Alors, vous avez mentionné l'hydrogène. Les défis sont colossaux en matière d'hydrogène. Il y a des choses, c'est vraiment, on fait des paris. Est-ce qu'on va les réussir? Rien n'est moins sûr. Mais donc, on a des besoins d'innovation qui sont colossaux dans plein de domaines, mais on a aussi besoin d'articuler avec de la sobriété. Tout de suite, ça ne va pas empêcher. Enfin, c'est pas soit l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc, et je pense qu'en Chine, les discours imposent en fait de ne pas... Enfin, voilà, sinon ça va... Je ne sais pas, mais j'observe la même chose en Europe. Donc
Et cette sorte de surenchère qu'on voit, on ne parle pas de sobriété, mais plutôt de surenchère, on le voit aussi dans le nucléaire, et on n'a pas eu le temps tellement d'en parler, mais en Chine, il y a aussi une énergie nucléaire que la Chine semble vouloir développer, puisqu'aujourd'hui, la Chine compte 58 réacteurs, c'est un peu plus de 56 gigawatts de capacité. Le premier a été mis assez tardivement par rapport à la France, c'était au tout début des années 90, en Chine, et des réacteurs qui sont en construction un peu partout, Thibaut Voïta?
Il y a 30 réacteurs qui sont en construction, effectivement. Cela dit, ces 57 gigawatts chinois les placent sous la capacité française, sauf erreur de ma part, ce qui est assez étonnant. Et c'est vrai qu'il y a cette question, question très franco-française, qui est de savoir pourquoi la Chine ne développe pas plus le nucléaire. Et je pense que c'est par pragmatisme, parce que les énergies renouvelables, en particulier le solaire photovoltaïque, représentent un coût bien inférieur à celui du développement des centrales. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils excluent le nucléaire, mais il faut vraiment un développement de toutes ces énergies en parallèle. Et y compris, enfin, on a très peu parlé d'hydroélectricité, mais il ne faut pas oublier que c'est la première source d'électricité décarbonée. Je dis bien décarbonée et pas propre cette fois, parce que
l'occurrence, ça pose d'autres problèmes. Ça ferait râler pas mal les riverains des fleuves sur lesquels on installe les barrages que de dire que c'est une énergie propre et vertueuse, et surtout au Tibet. Si oui, j'en ai dit un tout petit mot là-dessus, mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup développé. Mais sur le nucléaire, ça m'intéressait, Stéphanie Mongeon, aussi parce que je me demandais si la Chine comptait devenir aussi une puissance exportatrice de nucléaire, si aujourd'hui la technologie nucléaire est chinoise dans les centrales nucléaires en Chine.
Alors, Moi, je resterai prudente du nucléaire parce que je pense qu'on peut retrouver dans le passé beaucoup d'annonces comme quoi le nucléaire allait se développer de façon très rapide en Chine, et c'est pas vraiment le cas. On voit, ça reste une composante du mix électrique qui est assez faible. Il y a eu Fukushima qui a beaucoup freiné effectivement les projets, donc je pense qu'ils ont freiné, ils ont même annulé un certain nombre de projets et ils ont observé. Et là, certes, il y a un certain nombre de réacteurs en construction, mais ça reste limité quand même. Donc, on sent qu'il y a peut-être une... Je ne sais pas si c'est lors de l'hésitation. Donc, moi, je ne ferai pas de pronostic, j'en serais bien incapable. Je pense que là aussi, il faut observer. Et ils ont, effectivement, ces derniers 15 ans, décidé de maîtriser le savoir-faire. Donc, ils ont fait un certain nombre de contrats avec ceux qui avaient la technologie de façon à pouvoir la maîtriser. Mmh. Donc, là, on va voir dans les prochaines années si la volonté du PCC est d'exporter ces équipements, notamment peut-être sur les nouvelles routes de la soie dont on n'a pas fait mention, parce que si on parle de charbon, il faut aussi voir que la Chine continue à installer des centrales thermiques charbon, y compris en dehors de son territoire.
Et en effet, il y a eu des contrats. Alors, l'objectif serait de vendre des réacteurs aussi nucléaires à ses partenaires des nouvelles routes de la soie. Mais comme vous dites, Stéphanie Mongeon, on va attendre de voir si ça se fait ou pas. Il était question aussi que la Chine vende un réacteur au Royaume-Uni. Finalement, ça n'a pas abouti. En tout cas, on peut imaginer que si la Chine se lance dans l'exportation et la production vraiment de nucléaire, ça ne va pas manquer de pousser les rivaux commerciaux de la Chine à la surenchère. Donc, on est encore très loin de cette sobriété que vous appeliez de vos voeux. Les partenaires commerciaux vexés de surcroît d'avoir contribuer au savoir-faire chinois par le transfert de technologie. La Chine serait désormais en mesure de livrer un réacteur en 4 ans, quand le chantier de l'EPR de Flamanville a duré 17 ans. Le groupe chinois SMZB, basé à Wuhan, c'est un groupe de punk hardcore à l'origine, mais qui ici se livre à l'exercice de la ballade, avec comme texte un poème écrit par Lin Zhao, cette militante du Parti communiste, avant d'en être dissidente et de s'y opposer. Elle a été emprisonnée et torturée, exécutée en 1968. Peut-on encore en Chine se mobiliser pour l'environnement, cette fois, quand l'État parle lui-même de civilisation écologique? Il coupe l'herbe sous le pied des militants.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Jusqu'à la pandémie de Covid, il était encore à peu près possible de manifester en Chine contre un projet jugé inutile ou malfaisant pour l'environnement. Mais toute mobilisation collective est désormais punie. Bonjour Virginia Rantès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes post-doctorante sur le projet Chine-Coref, affilié au Centre Chine de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit China is Green Consensus, paru aux éditions Routledge. D'abord, les grands projets dont on parle depuis tout à l'heure, grands projets d'énergie renouvelable censés paver la voie de la transition énergétique en Chine, est-ce que ceux-ci en particulier font l'objet au moins de vigilance de la part d'associations, d'ONG chinoises, voire de riverains des projets en question ?
Oui, tout à fait. Enfin, la société civile en Chine existe toujours, mais elle s'engage de nouvelles façons. Donc, il y a des nouvelles formes d'engagement, par exemple en développant des formes de sciences citoyennes. Donc, les ONG se sont beaucoup professionnalisées ces dernières années. Donc, les ONG qui, depuis 2016, donc, sont plus contraintes par le gouvernement avec l'instauration de nouvelles lois, du coup, se professionnalisent dans des secteurs clés et vont plutôt, elles adaptent leur campagne au discours officiel, donc elles continuent d'opérer, mais dans des campagnes qui se lient aux priorités de l'État, en analysant par exemple des mots-clés dans les documents officiels, en calibrant leurs actions en fonction de celles-ci, et font aussi un rôle de surveillance.
Donc pour bien comprendre ce que vous dites, Virginia Rantès, jusqu'au début des années 2020 à peu près, on avait des associations qui pouvaient porter la cause écologiste, lancer des mobilisations contre des projets, mais aujourd'hui, alors que l'État chinois parle lui-même de civilisation écologique, c'est plus compliqué de se montrer opposé à un projet qui est censé répondre à cette civilisation écologique, donc les associations prennent un autre rôle. Est-ce que peut-être pour nous expliquer précisément avec un cas concret, celui du projet d'aménagement des berges d'un fleuve près de Shenzhen, dans le parc naturel et forestier de Wutongshan. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, du coup, non, les ONG peuvent continuer à utiliser des outils administratifs, des lois, par exemple la loi de l'environnement, de l'impact environnemental. Mais donc, ce qu'on dit ici, une cooptation de la cause environnementale par le parti chinois, donc c'est un processus qu'on voit de plusieurs années, donc l'environnement qui devient un enjeu central dans le discours officiel en Chine, donc un discours qui est de plus en plus encadré, voire instrumentalisé, surtout depuis l'apparition de cette notion de civilisation écologique. Alors, cette notion de civilisation écologique, elle est inscrite dans la Constitution en 2018 et elle fonctionne à la fois comme une boussole idéologique, un levier stratégique et une forme de gouvernance très centralisée. Donc, on voit vraiment une recentralisation de la gouvernance en Chine dans tous les secteurs, mais aussi dans l'environnement. Et donc, comme vous le disiez juste avant, donc l'idée, c'est de réorienter l'économie vers un modèle divers, en renforçant la légitimité du parti.
Est-ce que vous pouvez juste vraiment nous raconter ce qui s'est passé ? Parce que c'est difficile toujours d'avoir des images de ce qui est en train de se passer en Chine. Or, vous avez travaillé vraiment sur un projet très précis, entre autres, mais cet aménagement des berges d'un fleuve avec des habitants qui s'opposaient au projet et qui ont monté un collectif, qui ont fait appel à des juristes. Comment leur lutte s'est-elle adaptée à ce que vous êtes en train de nous expliquer, cette nouvelle façon pour l'État chinois de porter la cause écologiste, et donc il faut trouver d'autres arguments et d'autres façons de faire.
Oui, donc ce cas des berges de la rivière Wutongshan, donc c'est en 2020. Donc ce projet visait à créer un corridor résidentiel et commercial. Donc officiellement, il s'agissait de revitaliser l'économie locale dans le contexte post-Covid. Mais le chantier donc avance sans évaluation environnementale, donc la loi de l'impact environnemental dont je vous parlais, qui est obligatoire depuis plusieurs années et que les ONG peuvent utiliser, donc sur une zone pourtant très très riche en biodiversité. Alors, pour justifier cette exemption, les autorités locales affirment que la zone n'est pas écologiquement sensible. Ils font une interprétation assez floue qui permet d'accélérer le projet sans consultation publique. Et donc, quand les habitants découvrent l'ampleur des travaux, c'est-à-dire un bétonnage du lit de la rivière, un détournement de l'eau, l'abattage d'arbres, donc une contestation émerge. Donc, un groupe de résidents s'organise avec des ONG, des juristes et des journalistes, ce qui était déjà le cas avant, par exemple, contre la construction de barrages, comme en 2003-2004, la rivière Nou, c'est un cas qui est vraiment resté dans l'esprit des activistes environnementaux en Chine. Qui avait à l'époque été annulé par l'État central. Ici, les autorités répondent partiellement en diffusant certains documents, mais sans vraiment remettre en cause le chantier. Et donc, ce mouvement fait un rapport et celui-ci est fini par être censuré par les médias. Et donc, lorsque les militants le diffusent sur les réseaux sociaux, les services de sécurité les convoquent. Et donc, on a ici un changement dans la façon de gérer ces cas d'environnement. Il y a aussi plus d'expérience du côté des gouvernements locaux à comment répondre à ces mouvements. Il y a aussi un contrôle accru de l'espace public, une criminalisation des actions collectives. Aussi une meilleure utilisation ou réglementation des réseaux sociaux du côté du parti, donc qui met plus de bâtons du côté des organisations sociales, de la société civile.
Avec des associations qui doivent donc, si j'ai bien compris, finir, et on va conclure avec ça, Virginie Arantès, en quelques mots, finir par trouver une parade en quelque sorte pour être entendue quand même en coopérant avec le gouvernement de façon scientifique sous la forme de ce que vous appeliez tout à l'heure une sorte de science participative. C'est comme ça qu'ils réussissent à continuer à travailler.
Ici le mouvement est dissous, par exemple, les ONG, les organisations tentent plutôt à fonctionner en deux phases. Premièrement, à utiliser des techniques administratives, d'utilisation des lois, etc. Et quand ça ne fonctionne pas, d'utiliser les réseaux sociaux, d'essayer de rendre la campagne virale. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Ils s'engagent plutôt de façon discrète, par exemple en organisant un suivi citoyen de la qualité de l'eau, mais n'entrant pas dans des confrontations avec les autorités.
Donc ils savent qu'ils sortiront perdants de toute façon. Merci beaucoup Virginie Arantès. Excusez-moi, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes post-doctorante sur ce projet Chine-Coref, affilié au Centre Chine de l'EHESS, et qu'on peut trouver votre livre. Alors il est en anglais aux éditions Routledge, le consensus vert de la Chine. C'est le titre, on mettra les références sur notre site. Peut-être un petit mot de conclusion à nos invités pour savoir aussi si Stéphanie Mongeon, Thibaut Voy, c'est cette question de la mobilisation citoyenne des habitants chinois, des citoyens chinois qui pourraient aussi, eux, se voir totalement privés de donner un avis sur ce qui est en train de se passer en Chine et cette transition-là. En 2016 encore, certaines sources parlaient de 500 mobilisations par jour dans toute la Chine, entre autres sur la question de la pollution de l'air, mais pas seulement. En tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous faites vos travaux? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour peut-être conclure, Stéphanie Mongeon?
Alors moi, pour conclure, je voulais pas du tout réagir sur ça, mais j'ai fait des travaux justement qui abordent ces questions dans le cadre de la civilisation écologique. Il y a eu clairement, avec l'arrivée de Xi Jinping, une reprise en main des discours, des oppositions, des mouvements, certaines formes de liberté que la population avait. Donc il y a beaucoup, oui, on peut trouver des travaux sur ça. Moi, le dernier point c'est que je voulais faire le lien avec l'Union européenne, dire que la maîtrise de la Chine, la domination de la Chine en matière industrielle sur les technologies bas carbone pose vraiment des questions très urgentes sur les priorités politiques que nous avons faites depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, et qui rendent en fait les politiques industrielles très difficile à mettre en œuvre. Et là, il y a vraiment une urgence à réfléchir sur une évolution de notre action politique, parce qu'on ne peut pas être complètement dépendant pour l'ensemble des technologies bas carbone de la Chine.
Un tout petit mot, Thibaut Voïta, pour réagir à ce que vient de dire Stéphanie Monjon.
Sur la mobilisation citoyenne, j'espère que c'est pas ce qui nous attend en Europe. Et c'est absolument essentiel de mobiliser les citoyens dans la transition environnementale, enfin sur toutes ces politiques environnementales.
On sait qu'ils sont, c'est déjà un petit peu compliqué. Mais bon, je vous laisse continuer.
Et un dernier point très rapidement, je pense que, alors il faut pas regarder la Chine sur les répressions de ces mouvements. En revanche, il faut la regarder quand on voit qu'ils ont réussi à mettre en place des politiques de décarbonation qui vont dans le sens de la croissance économique. C'est essentiel.
Ben, en tout cas, j'avais bien entendu aussi toutes les réserves que vous avez formulées l'un et l'autre et tous les risques qu'on encourt à ne pas entendre qu'il s'agit aussi d'une forme de surenchère et pas seulement d'économie d'énergie. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphanie Monjon et Thibaut Voïta, d'avoir été avec nous. Merci, c'est l'heure de la revue de presse internationale présentée par Laurence Méride. Son visage, Laurence, fait la une de tous les journaux en Corée du Sud. Après 6 mois de chaos politique, le pays a un nouveau président.
Lee Jae-myung, il fait la une de tous les journaux ce matin. Il est arrivé largement en tête de la présidentielle. Les chaînes de télévision ont publié les derniers chiffres hier soir à la clôture du scrutin. Le candidat de centre-gauche emporte l'élection avec 49,42% des voix contre 41,15% pour son adversaire de droite, Kim Moon-soo. Je salue la décision du peuple. Je ferai de mon mieux pour assumer les grandes responsabilités et devoirs qui m'incombent pour ne pas trahir les attentes des Sud-Coréens. Voilà ce qu'il a déclaré après sa victoire. Sa victoire, d'ailleurs, est une véritable revanche sur la vie et son parcours, une success story captivante, racontée par le site d'information Nikkei Asia. Issu d'une famille pauvre d'agriculteurs, le petit Lee Jae-myung n'a pas la chance d'aller à l'école et doit travailler comme ouvrier pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, à l'usine, son bras se coince dans une presse et le laisse handicapé à vie. Mais ça ne le décourage pas. Il entreprend de changer de vie. Il suit des cours du soir, valide les examens du lycée, entre à la fac de droit, réussit l'examen du barreau et devient avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Nikkei Asia souligne que cette ascension remarquable de la pauvreté à la réussite professionnelle résonne profondément auprès d'un public coréen attiré par les récits de Cendrillon, souvent représentés dans les K-dramas, ces séries mélodramatiques très populaires au pays du matin calme. Ça renforce en fait son image de champion des défavorisés.
Il entre en politique dans les années 2010.
Après avoir été maire puis gouverneur en 2022, il manque de peu de remporter l'élection présidentielle face à Yoon Suk-yeol. Durant son mandat, ce conservateur va, l'espace d'une nuit du 3 décembre 2024, décréter la loi martiale dans le pays. Lee Jae-myung ne fait ni une ni deux. Il enjambe la barrière de l'Assemblée nationale pour tenter de l'empêcher de prendre le contrôle des institutions, puis mène une campagne pour déchoir Yoon Suk-yeol et déclencher une présidentielle anticipée qu'il a finalement propulsé hier à la tête de l'État. Mais il aurait pu ne pas l'emporter car il a frôlé la mort début 2024 alors qu'il visite le chantier de construction d'un aéroport à Busan. Un homme le poignarde au niveau du cou, une tentative d'assassinat pour l'empêcher de gouverner le pays qui a donc échoué. Lee subit plusieurs opérations chirurgicales et 5 mois plus tard est élu président de la Corée du Sud. Investi ce matin, il a promis au cours de sa campagne de relancer l'économie d'un pays en crise avec un taux de natalité parmi les plus bas au monde et où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le triomphe de Lee Jae-myung n'efface pas les multiples scandales dans lesquels il est empêtré, poursuivi notamment dans plusieurs affaires de corruption.
Enfin, au Canada, des feux de forêt ravagent le centre du pays.
Oui, les fumées des incendies sont visibles aux États-Unis et plus étonnant jusqu'ici en Europe et en France. La journée d'hier a été extrêmement difficile pour nos pompiers. Ils ont dû fuir. Le comportement du feu était extrême, rapporte Malo Pichard, président de l'Agence de la sécurité de la province de Saskatchewan à Radio-Canada. C'est là-bas, ainsi qu'au Manitoba, que les feux font rage. L'armée a dû être appelé en renfort. Des sites pétroliers sont à l'arrêt à cause de ces dizaines de méga-feux. Plus de 26 000 personnes ont dû abandonner leur domicile. À Radio-Canada, Scott Moe, le premier ministre de la province, explique que de nombreuses familles quittent leur maison et ne savent pas si elles auront l'occasion d'y retourner. Ce ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des lieux où elles ont élevé leur famille, des habitants parfois malades comme ce monsieur qui habite à Flin Flon. Il dit être très vulnérable, il suit une chimiothérapie et il ne sait pas quand il pourra rentrer chez lui, une chimiothérapie en français. Chaque été, à cause du réchauffement climatique, le Canada est confronté à des incendies de forêt, mais ce début de saison inquiète particulièrement par sa précocité et sa virulence. 2 millions d'hectares ont déjà brûlé, soit la superficie de la Slovénie. Et alors que le pays reste traumatisé par l'été 2023, qui a été apocalyptique avec 15 millions d'hectares brûlés, c'est loin d'être fini. Selon les prévisions des autorités canadiennes, la saison des feux pourrait être au-dessus de la normale dans le centre et l'ouest du Canada en juin, donc ce mois-ci, et en juillet, le mois prochain, et bien au-dessus de la moyenne en août, notamment en raison de la sécheresse grave ou extrême qui sévit dans plusieurs endroits. Si vous avez la moindre question sur cette revue de presse ou sur l'actualité internationale, continuez à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi.
C'est bien noté, Laurence Méride. Merci beaucoup.